Et pour commencer ce journal, la France a été condamnée hier par la justice européenne pour le non-respect des seuils de pollution de l'air.
Et en particulier pour le dépassement des normes du taux d'émission de dioxyde d'azote. La Cour de justice de l'Union européenne parle d'un dépassement systématique et persistant de ses limites depuis maintenant 10 ans. La France a déjà reçu plusieurs avertissements de l'Europe, 6 mises en demeure depuis 2009. Cette pollution de l'air au dioxyde d'azote concerne 12 agglomérations, dont les villes de Paris, Lyon, Marseille, Nice, Strasbourg, Toulouse, mais aussi la vallée de l'Arve dans les Alpes. La Cour de justice demande un plan d'action rapide et efficace pour réduire le plus vite possible ces émissions et pour protéger les citoyens français. Si rien n'est fait, le pays risque une amende de 11 millions d'euros. Le dioxyde d'azote, le NO2, est considéré comme l'un des polluants majeurs de l'atmosphère. Pierre Pernaud est ingénieur à Air Parif, l'organisme de surveillance de la qualité de l'air en région parisienne.
Pourquoi on considère que c'est un des polluants majeurs de notre air? Tout simplement parce que, par exemple, en Ile-de-France, c'est le polluant le plus préoccupant au regard des dépassements des valeurs limites, puisqu'on a 1 million de Franciliens qui respirent un air qui est trop pollué en dioxyde d'azote. La directive européenne sur la qualité de l'air fixe une valeur limite de 40 microgrammes par mètre cube en moyenne annuelle à ne pas dépasser. Il se trouve pour le dioxyde d'azote, la valeur limite fixée par l'Europe est la même que la recommandation fixée par l'Organisation mondiale de la santé, c'est-à-dire 40 microgrammes par mètre cube en moyenne annuelle. Par contre, il faut quand même noter qu'il y a globalement une amélioration de la qualité de l'air et une diminution des niveaux de dioxyde d'azote, même si cette diminution elle n'est pas satisfaisante et suffisante puisqu'on dépasse encore les valeurs limites.
En bref, selon le rapport de l'organisation internationale Break Free from Plastic, qui a été publié mercredi, seules quelques multinationales sont responsables de la pollution plastique mondiale.
Avec au premier rang Coca-Cola, avec cette année près de 12 000 déchets plastiques collectés dans 37 pays sur 4 continents. Nestlé est le deuxième plus gros pollueur, suivi par PepsiCo. Alors Break Free from Plastic est une coalition qui regroupe plus de 1400 ONG. Elle affirme que le recyclage ne résoudra pas le problème. Selon ce rapport, seulement 9% de la production plastique mondiale a été recyclée depuis les années 50. Elle demande aux multinationales de cesser de faire porter la responsabilité aux consommateurs et de réduire drastiquement et urgemment leur production de plastique à usage unique.
Deuxième sujet de ce journal avec la parution dans Science de la première cartographie mondiale des vers de terre.
C'est un énorme travail qui a réuni 141 chercheurs de 35 nationalités. Ils ont récolté et analysé les données de près de 7000 sites sur 57 pays. Alors on connaît l'importance des vers de terre pour la santé des sols, comment ils participent à la circulation des nutriments, mais on n'avait jamais mesuré leur répartition, leur abondance, leur diversité, surtout les menaces qui pèsent sur eux. L'étude confirme plusieurs hypothèses. Plus la région est tempérée, plus on y trouve un grand nombre de lombriques, environ 150 par mètre carré en moyenne. Et c'est sous les tropiques que la diversité des espèces est la plus forte. Ces travaux déjouent aussi une idée reçue, la qualité du sol n'est pas le facteur le plus important pour l'abondance et la diversité des vers de terre. En revanche, ce qui est capital, ce sont les variations climatiques. Jean-François Ponge est professeur émérite au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Il est co-signataire de cette étude.
Tout le monde connaît les vers de terre. On sait qu'un sol riche va abriter beaucoup de vers de terre. Par contre, ce qu'on ne connaissait pas du tout, ce qu'on n'avait pas pu démontrer avec des tests scientifiques, c'est l'importance du climat. Alors, l'enjeu, évidemment, c'est de savoir, avec le réchauffement climatique actuel, est-ce qu'il va y avoir plus ou moins de vers de terre? Bon, le climat se réchauffe. On sait que ça va entraîner, disons, des variations au niveau de l'humidité, parce que le climat se réchauffe, oui, mais la pluie, elle ne suit pas forcément. Si on se réfère à cette étude-là, on peut dire que là où le climat se réchauffe, eh bien, on va avoir une abondance moindre des vers de terre. Et ça peut avoir un impact négatif sur la qualité des sols. Parce que les vers de terre, ils se développent dans un sol riche, mais ils contribuent aussi à l'enrichir, ce sol. C'est ce qu'on appelle un feedback positif. Donc, s'il y a moins de vers de terre, à cause d'une température plus élevée, eh bien, on risque d'avoir des problèmes au niveau de la fertilité des sols. Mais là, actuellement, à partir de cette étude, on peut avoir de fortes chances de penser que les vers de terre, eh ben, ça va pas être bien pour eux avec l'évolution actuelle du climat. Voilà, encore un autre argument de plus pour dire, halte là, il va falloir faire quelque chose.
En bref, les futurs projets de l'Agence spatiale européenne sont actuellement en débat.
L'ESA invite les chercheurs à présenter leur idée pour Voyage 2050, un programme de mission d'une durée de 20 ans qui débutera en 2035. La semaine prochaine, un comité se réunira pour discuter des propositions. Il y en a déjà une centaine, de nombreuses sont dédiées aux sciences des exoplanètes, dont les projets également à partir à la recherche d'échantillons de Vénus ou s'associer avec la NASA pour envoyer une sonde sur Uranus et Neptune.
U2, le rover chinois, a fait la découverte en août d'une substance étrange et gélatineuse sur la face cachée de la Lune. Ce ne serait en fait qu'un simple rocher.
Et ce sont les conclusions d'une enquête parue dans la revue Space qui a examiné les dernières photographies de cette substance dite mystérieuse. Ce serait plus précisément un ver d'impact, c'est-à-dire ce qui se forme lors d'un impact avec un météorite. Ça expliquerait aussi son apparence brillante. Il s'agit d'un matériau assez similaire à ce que les astronautes de la mission Apollo 17 avaient déjà découvert.
Et cette semaine, dans le journal des sciences, nous avons parlé notamment des tremblements de tempête, d'un nouvel outil d'édition génétique plus performant que CRISPR-Cas9, des questions éthiques liées aux organoïdes cérébraux, et nous avons dégonflé l'effet d'annonce d'un nouveau traitement contre la maladie d'Alzheimer, mais cette semaine également dans l'actualité des sciences, Natacha, et en ultra bref.
Lors de l'actuel congrès astronautique international de Washington, Ariane Space a annoncé que Ariane 6 pourrait participer à l'aventure lunaire. L'agence envisage de faire voler sa nouvelle fusée vers la Lune pour de transport du matériel d'ici 2023. En 2018, en Arctique, il n'y a eu aucune reproduction sur l'ensemble de la faune et de la flore. En cause, une trop forte chute de neige empêchant toute reproduction. C'est sans équivoque et les conséquences sur les écosystèmes de la région sont graves. Et la 15e édition du festival Paris Science commence aujourd'hui et se tient jusqu'à mercredi prochain. L'événement est gratuit et la programmation est riche d'une cinquantaine de documentaires scientifiques de tout format. Les détails sont à retrouver sur le site parisscience.fr. Et enfin, les chercheurs du CNRS ont percé un mystère. Pourquoi n'y a-t-il pas d'embouteillage chez les fourmis? Contrairement à nos bouchons d'autoroute, le flux des fourmis est toujours constant et ne connaît aucun ralentissement. Si le trafic devient trop dense, elles changent de route. De cette façon, on compte toujours 18 fourmis par centimètre carré.
Et pour finir, comme chaque semaine, on termine ce journal par la rubrique des sciences improbables. Et dans la revue Behavioral Brain, des neurologues américains ont appris à des rats à conduire de petites voitures et c'est très charmant. C'est très charmant.
Ils sont dans une grosse boîte, hein. Une vingtaine de rats ont appris à conduire des véhicules électriques pour récupérer de la nourriture. Alors pour se guider, ils ont appris à utiliser un grillage en cuivre qui indique la direction. Et l'expérience prouve, une fois de plus, que la neuroplasticité du cerveau des rats est plus flexible qu'on le pensait. Et autre surprise, les chercheurs se sont aperçus que cette activité, l'apprentissage de la conduite, réduisait leur niveau de stress.
Contrairement aux humains.
Voilà. Vous pouvez voir sur le fil Twitter de la méthode FC, les vidéos de l'expérience sont étrangement réjouissantes.
Oui, c'est très, très bien pour se détendre avant de prendre le volant. Merci Natacha pour ce journal des sciences que vous pouvez retrouver évidemment comme tous les autres journaux des sciences sur notre site franceculture.fr ainsi que sur le fil Twitter de l'émission.